le lead magnet, le contenu fermé dans sa globalité, quel qu'il soit, que ce soit une étude de cas, un livre blanc, n'importe quoi qui peut apporter de la valeur, est-ce que ça vaut le coup de fermer encore en un contenu comme ça pour cette ambition d'avoir cet email et derrière de garder contact avec la boîte. Je vais commencer avec toi dans l'ordre de la table, Frédéric. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Quel est ton positionnement sur ce contenu fermé?
Alors, pour moi, en fait, c'est important parce que on le voit bien, les gens, en fait, quand ils viennent, en fait, sur un site internet, souvent, nous, dans le B2B, et ben, en fait, tout simplement, ils vont consulter plusieurs concurrents. Et il faut être celui qui va, déjà rappeler le plus tôt possible la personne si elle a vraiment un intérêt, si elle fait une démonstration, si elle demande de démo, sur un livre blanc, par contre, bien sûr, il faut laisser maturer un petit peu la personne. Mais il faut bien savoir que nous, dans le domaine des centres de contact, le cycle de décision, c'est 1 an, voire 2 ans. Donc, tu peux pas juste te dire, tiens, la personne a regardé, elle se souviendra de moi dans 1 an. Donc, il faut garder contact régulièrement. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est créer l'événement. Et c'est ce que je répète toujours chez nous, c'est que si tu as les personnes, que tu envoies des emails, ok, c'est sympa, ils vont lire peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu vois, en fait, une décroissance régulière du taux de découverte. C'est pour ça, en fait, que j'invite tout le monde à événementialiser, comme tu fais là au travers d'un live. Je donne un exemple super concret. Là, en fait, dans une semaine, quasiment, le 24, on a notre CX Summit annuel. C'est notre événement annuel et on attire plus de 1000 personnes. Et pour nous, c'est vraiment un point d'orgue.
Juste un truc, Frédéric, parce que on entend voilà, au niveau du micro, juste pour qu'on puisse bien t'entendre. Voilà, nickel.
C'est
nickel,
mieux.
Nickel. Ouais.
Voilà, donc je disais, il crée ce point d'orgue, permet à la fois de mobiliser les équipes, mais également de mobiliser. Ah, je crois qu'Anne qui me dit qu'on ne m'entend pas très bien.
Écarte ton micro un peu parce que ça crache.
Ça crache. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Ça va comme
exactement.
Ça
exactement, nickel.
Bon. Voilà, donc je disais qu'il faut créer cet événement, ce point d'orgue, qui va faire en sorte que les clients vont se dire, hey, il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Et ça, c'est vraiment en dehors de ces emails classiques que l'on envoie. Et on peut aussi penser multicanal. Là, par exemple, dans cet événement qu'on a la semaine prochaine, tu vois, la moitié des leads viennent en fait des réseaux sociaux, en particulier de LinkedIn, pas que, hein, parce qu'on a fait du SMS, on a fait un certain nombre de stratégies comme ça. Mais les emails, ça a été la moitié des inscrits. Ce qui veut dire en fait qu'il faut vraiment avoir une stratégie multicanale et pas uniquement penser de manière classique, bah, j'envoie un email, les gens lisent mes emails. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, le petit tip qu'on fait, c'est que généralement, on envoie certes un email, on envoie une newsletter, mais c'est pas ça qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est quand les gens connaissent la personne. Et généralement, quand c'est l'expéditeur qui est le commercial en charge du compte ou la personne avec qui il a déjà eu un contact, un email, etc., bah, ça marche beaucoup plus. Et cet aspect relationnel est vraiment essentiel. On est de plus en plus dans une saturation des communications, saturation des messages. Si tu sors pas du lot, si tu n'arrives pas à te différencier, si la personne te dit bah, tiens, je connais ce gars-là ou quelque chose comme ça, bah, ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Donc il faut, je dis pas, tu parlais d'ABM et tout ça dans l'invitation, mais en tout cas, il faut se dire que on peut pas se contenter de faire de la masse. De plus en plus, en fait, faut segmenter, donner une bonne raison aux personnes de participer.
Voilà. Ok. Et donc, pour résumer, c'est faire du contenu fermé, mais pas que, c'est ça?
Alors, le contenu fermé permet de récupérer les coordonnées, d'avoir un premier lien et surtout d'avoir une image de professionnel. Tu vois, moi, j'ai intégré le monde de la relation client au niveau du centre de contact il y a à peu près 5 ans de cela. Moi, je venais du CRM, de la gestion, j'étais totalement inconnu de ce secteur-là. J'ai commencé à faire une série de posts sur le sujet. J'ai fait une BD qui est un truc un peu original parce que justement, les contenus un peu classiques, ça, on voit bien que ça a ses limites. Bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc, une BD un petit peu originale qui séduit. Les gens me disent, ouais, tiens, j'ai pris votre image, je l'ai affichée dans le hall d'entrée où je l'ai envoyé à la newsletter. On me disait, est-ce que je peux l'utiliser aussi chez nous, etc., etc. Donc, des contenus un peu plus originaux, un peu plus pointus, un peu plus métiers. Et comme je disais, je suis arrivé, j'étais inconnu. Et là, il n'y a pas très longtemps, je suis encore allé à une soirée professionnelle. C'était Agora Manager Experience Client. Et il y a 5-6 personnes qui me disent, ah, ça fait plaisir de vous voir en vrai. Ah, je lis souvent vos articles, etc., etc. Et ça permet, un, d'être connu, de faire une pré-vente, comme dit Robert Cialdini dans son livre Persuasion, c'est on pré-vend. Et le dernier point, c'est tout simplement de gagner la confiance. Nous, en fait, on le voit bien, il y a des dossiers comme ça qu'on gagne parce que les personnes nous disent, mais on vous fait confiance, on a déjà vu vos webinaires, on a déjà vu vos contenus, on sait qu'il va y avoir de la qualité. Et surtout, quand tu vas envoyer un message, tu ne vas pas être un spammeur. L'exemple type, là, je te reparle de notre sexy meet de la semaine prochaine. Et ben en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, quand j'envoie un message sur LinkedIn, ils ont dit, tiens, regarde, il y a un truc qui pourrait vous intéresser. Ils me disent, ah oui, je vais m'inscrire parce qu'on sait qu'il y a toujours quelque chose de qualité et j'ai déjà suivi plusieurs choses. Donc en fait, c'est cet aspect expertise et devenir un expert, créer une image d'expert dans une thématique ouais. alors qu'on vient de zéro.
On va y venir, mais effectivement. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu pratiques encore de proposer du contenu et en contrepartie d'avoir un email, mais de rester toujours dans cet aspect qualitatif expert. C'est ça que
ouais.
tu.
Ouais, après, tu peux avoir plusieurs stratégies. C'est-à-dire que nous, par exemple, le premier formulaire, quand tu as un livre blanc, on ne demande que l'email. Par contre, quand dans la séquence de marketing automation, quand on leur propose un autre cas client, un autre cas d'usage, on demande le numéro de téléphone. Pas en obligatoire, mais voilà. Plus tu avances, plus tu demandes des informations, parce qu'en fait, il faut être clair, et c'est ça que Yann dit.
Ça marche.
Juste pour, pas par email.
Juste pour cadencer l'échange, je vais passer à Fabrice. Fabrice, quelle est ta position sur ce sujet?
Bah, comment te dire que Fred a dit 95% de, de ce que je pense. Non, mais bien sûr, ce qui est important, c'est toujours la même chose. C'est évidemment de nouer une relation avec ton prospect, avec ton lead, transformer en lead, etc. Et le contenu fermé reste à date sans doute le meilleur moyen de collecter des emails. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Ça me rappelle quand j'ai lancé Fire Content. Quelques années, on avait fait un livre blanc. Et encore aujourd'hui, je reçois des téléchargements, donc des emails. Donc, tu vois, 4 ans après. Donc, ça fonctionne bien si tu apportes de la valeur. Et ça, c'est important de rappeler, c'est ce que disait Fred. Si tu apportes vraiment quelque chose de valeur, quelque chose d'utile, contractuellement, tu dis, OK, je t'apporte de la valeur, tu me files tes coordonnées et à partir de là, on peut commencer à nurturer, comme le disait Fred, et nouer une relation qui débouchera éventuellement sur une vente ou pas. Mais en tout cas, tu commences à créer une communauté, tu commences à créer un lien, ce qui est quand même fondamental dans nos métiers, avec ton audience. Moi, j'aime bien parler d'audience, mais ça, c'est l'ancien journaliste qui parle. Parce que finalement, ce que tu cherches à créer... Alors, te positionner comme expert ou pas, mais en tout cas comme quelqu'un qui peut apporter un éclairage sur un sujet, quel qu'il soit, et apporter, in fine, un peu de valeur et accompagner un client, un prospect, un lead, whatever, sur le chemin qui est le sien. Donc, le contenu fermé, oui, ça reste, quoi qu'on en dise, un élément parmi tant d'autres pour créer une relation.
Ça marche, ok. Donc, on a encore un partisan du contenu fermé. Comment ?
Pas que fermé, évidemment.
Pas que. Ça marche. Patrice, comment tu te places par rapport à ça ?
Pas que fermé. Je retiens ça, moi, ça me va.
Ok.
Non, mais en fait, la logique de j'apporte de la valeur et je propose un contenu qualité face au contrat qui est donne-moi ton adresse email ou dis-moi qui tu es, à la fois je la trouve évidemment intéressante, hein, c'est le début d'une relation où au moins on aura un moyen d'échanger, mais à la fois je la trouve un peu limitée, parce que aujourd'hui, comme tout le monde ici, ça m'est arrivé de donner mon email pour télécharger un livre blanc ou autre chose, sans avoir absolument aucune envie qu'il y ait une relation derrière ça. Tu veux, il faut aussi comprendre que les contenus fermés sont quelquefois hyper pertinents et intéressants à titre d'information, tout simplement, à titre de notre culture, de notre je ne vais pas prêcher des convaincus comme Fabrice ou Frédéric et Yann. C'est l'idée que tu pourrais acheter ou tu pourrais avoir envie de t'engager un peu pour avoir un contenu forcément un peu plus fouillé, pointu, thématisé, etc. C'est là où je ne suis pas tout à fait sûr que tu puisses en déduire quoi que ce soit sur la qualité de la relation qui va suivre.
Ok, super, super, hyper clair. Yann, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette question?
On est forcément en phase, puisque nous sommes, je dirais, tous sur la même longueur d'onde. Pour moi, la vraie question, c'est pas tellement est-ce que le gated content est efficace, et efficace pour qui, et efficace pourquoi. Parce que déjà, je pense qu'il y a un malentendu dans le marketing B2B. Ben, c'est déjà le marketing B2B, ça n'existe pas. Enfin, il y a X variations sur le même thème. Si je vends des trombones et des crayons chez Office Depot, c'est absolument aucun rapport avec le type de marketing qu'on peut faire, ni de vente d'ailleurs, si je vais vendre des centrales nucléaires ou des services de consulting. Ou... Voilà. Il y a une telle gradation en fait dans le marketing B2B, on a tendance à faire à mettre tout dans le même panier, mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une stratégie marketing B2B qui marche pour tout et tout le monde. Et ça, je pense que c'est là qu'il y a eu un malentendu. C'est peut-être, il y a certains éditeurs de logiciels, bon, HubSpot pour ne pas les nommer, qui ont pas mal poussé les solutions d'inbound marketing, parce que inbound marketing, c'est pas le content marketing. Hein. Inbound marketing, c'est quelque chose d'un petit peu plus
Spécifique.
automatisé que le content marketing. Et qui ont essayé de faire croire. Bon, certainement de bonne foi, hein, que c'était une solution miracle pour tout le monde. Et ce n'est pas une solution miracle pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Bien sûr que si, que c'est utile. Tout le monde l'a dit d'ailleurs ici. C'est un moyen de connecter des adresses e-mail. La question, c'est de savoir pourquoi faire. Est-ce que c'est pour, comme le dit Fabrice, créer, enfin, je vais dire créer une audience, mais on peut dire créer une audience, mais rassembler une audience, on pourrait dire. Pour prendre un mot un peu plus respectueux, ou est-ce que c'est pour essayer de leur fourguer un trombone et un crayon? Et c'est toute la difficulté et toute la différence entre les choses. Si je vends des abonnements de mobile pour des petits pros, bien sûr que je vais essayer de faire de l'inbound marketing pour essayer de vendre des abonnements. D'ailleurs, dans ce cas-là, l'inbound marketing devient curieusement proche de l'outbound marketing, d'ailleurs. Hein, plus je vais être dans le bas de marché, plus je me rapproche de l'outbound. Et puis plus je vais être dans le haut de marché, et plus je vais rassembler des communautés, faire du marketing d'audience, faire du marketing respectueux, etc., etc. Donc
Donc les petits tickets on les respecte pas.
les petits.
Les petits tickets
Non, c'est pas
on
qu'on
les
les
respecte
respecte
pas.
pas, c'est qu'il y a d'un côté tu as un marketing de masse en
Oui,
B2B,
je
et de
comprends.
l'autre côté tu as un marketing de comment dire de micro-niche. En B2B, ça n'a rien à voir. Tu
Je
ne
comprends.
travailles pas en marketing sur 20 millions de clients comme tu vas travailler sur 10 ou 15 comptes nommés. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça, aucune. Et pourtant, le content marketing va avoir un rôle dans les deux cas, mais ce ne sera pas le même.
Ok, super cool, hyper intéressant. Je vais clôturer cette question en vous donnant mon avis qui est un petit peu plus tranché sur la question. Pour moi, le contenu fermé a passé son âge d'or, clairement, clairement. Pour moi, c'est une pratique qui est aujourd'hui dépassée. Au tout départ, quand tu parlais, Yann, de HubSpot, et donc c'est un petit peu eux qui ont lancé cette vibe de l'inbound marketing, qui l'ont démocratisé, dirons-nous. Au tout départ, quand cette pratique d'un contenu fermé contre un email était adoptée, c'était perçu comme un très bon deal par les prospects. C'était quelque chose de vraiment vu comme la valeur perçue de ce geste-là était vue vraiment comme quelque chose d'unique. On avait vraiment un sentiment de valeur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une commodité. Toutes les boîtes le font. Et malgré l'expertise, l'intensité, la bonne foi qu'on va y mettre, la valeur perçue reste tout à fait moindre par rapport à il y a une dizaine d'années. Et en plus de ça, c'est quelque chose sur ce point-là, c'est quelque chose qui est factuellement et très visible. On a quand même 96 à 98% de taux de rebond devant un formulaire. Donc ça donne quand même un peu la couleur, c'est pas négligeable. Et on le voit aussi par le nombre de faux emails, le nombre de tentatives un petit peu tricky pour essayer d'avoir le contenu, mais pas forcément la danse qui va derrière, parce que les gens ont bien compris la carotte et ce qui se passait derrière. Donc 96 à 98% de taux de rebond. Moi, quand je fais un contenu et que j'y mets vraiment un effort et quand je mets vraiment de la valeur, une expertise, je ne peux pas accepter d'avoir une aussi grande perte. Donc ça, c'est le premier point pourquoi je suis aujourd'hui totalement contre le contenu fermé. Pour moi, le contenu fermé, il existe que pour deux motifs. Un événement, parce qu'il faut un rappel dans un calendrier, ou une démo. Donc, c'est seulement pour un rendez-vous qui demande un timing précis, un rappel dans le calendrier, que je vais me permettre de demander un formulaire. Sinon, je vais essayer de faire vivre la relation avec mon prospect de façon autre que par le fait d'avoir son email. Le deuxième argument par rapport à ce contenu fermé, c'est qu'aujourd'hui, faire une séquence email, ça n'a plus du tout le même impact. Aujourd'hui, essayer de nurturer par email, c'est plus du tout aussi efficace. Et là, pareil, c'est assez factuel. Ça se voit quand même au niveau des taux d'ouverture. Les taux d'ouverture n'ont plus rien à voir. Les taux de réponse n'ont plus rien à voir. Et surtout aussi, concrètement, le résultat business, les taux de conversion, quand on regarde les prospects qui ont été sourcés via une stratégie de lead magnet, donc de lead gen, qui ont été sourcés par ce premier point de contact, le pourcentage derrière qui deviennent des prospects, qui deviennent des clients, est relativement très très faible, 0,1%. En moyenne.
Je répète parce que c'était peut-être pas assez clair. Dans le haut de marché B2B, c'est même pas 0,1%, c'est 0%. Personne n'a jamais acheté quoi que ce soit de plus de 7000 euros sur Internet, sauf peut-être dans la mythologie, mais ça n'existe pas. Enfin, ça peut arriver, mais c'est rare.
Ouais.
Il y a des remarques intéressantes dans LinkedIn, peut-être.
Yes, on va rebondir au fil de l'eau sur les remarques. Bonne remarque, Yann.
Non, c'est intéressant ce que tu dis, Fatih. Je voulais juste réagir parce que il y a un élément que l'on ne prend peut-être pas assez en compte, c'est qu'il y a une sorte d'habitude qui s'est créée, c'est-à-dire que les audiences, les publics sont de plus en plus familiers avec les techniques qui sont déployées. Donc, il y a une courbe d'apprentissage de part et d'autre. Et donc, ça exige, à mon avis, deux choses qui ne rendent pas pour autant caduque le contenu fermé. C'est d'être peut-être beaucoup plus smart dans l'approche, même si tu fais du lead nurturing. Bah, je pense qu'on est tous pareils. On reçoit peut-être entre 200 et 300 mails par jour. Donc, effectivement, il faut, pour se démarquer, trouver vraiment le bon levier et créer, je pense, beaucoup plus de valeur. Tu parlais d'événements, Fred en parlait aussi, de calendrier. Donc, apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant pour ton audience, ton public, qu'il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que c'est vrai qu'on passe d'un taux d'ouverture moyen de 7 à 5, à 4, à 3, ça dépend. Donc, je pense que voilà, il faut évoluer avec l'expérience.
Bien évidemment, exactement.
Et pour autant, je ne suis pas sûr que ça rende caduque le contenu fermé.
Okay.
Mais en revanche, ouais, il faut être vachement meilleur, quoi.
Ouais, ok, trop cool. En tout cas, le but, c'est qu'on ne soit pas avec un consensus parfait, c'est d'avoir chacun son avis. En tout cas, vos retours ont été tous pertinents de mon point de vue et ont tous apporté un angle différent. Donc ça, c'est trop cool. On a quelques petites questions. Si on spam à coup de workflow à cette étape, tous les gens qui téléchargent un contenu, oui, c'est dépassé, mais ce n'est pas le contenu fermé qui est dépassé. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Cédric, hello Cédric, qui nous dit plus un pour Patrice, pourquoi ne pas fermer que les contenus mofu au bofu? Mofu au bofu, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas en ligne avec ça, mais pourquoi pas, ça peut se tester.
Sur le haut de marché B2B, il n'y a pas de ni de tofu, ni de mofu, ni de bofu, il n'y a rien. Il n'y a pas de funnel, ça n'existe pas. Le funnel, ça ne marche que pour la vente de masse. Et au passage, d'ailleurs, l'entonnoir des ventes, c'est une invention toute récente qui date de 1895, Sint-Elmo Lewis. Bon, il serait peut-être temps de changer un peu le
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, trop cool. Passons à la deuxième question que je vais essayer de reprendre de mon côté. Qui était une stratégie de contenu? Comment faire en genre. Donc, on est tous un peu d'accord pour dire que le contenu est quand même encore king, que le contenu, c'est quand même encore l'asset stratégique à avoir dans sa stratégie de marketing. Comment on fait dans ce bruit ambiant, dans cette saturation, cette sursollicitation des prospects, comment on fait aujourd'hui pour faire un contenu qui résonne et qui apporte vraiment des résultats business? Et là, je vais faire un tour de table à l'envers. Je vais commencer par toi, Yann, pour cette question.
Wow, c'est la question à 300 millions de dollars. Merci de me l'avoir posée. Non, je pense qu'effectivement, serait la difficulté. Si j'avais une recette miracle, mais je la fournirais tout de suite, ou plutôt je la garderais pour moi parce que je serais milliardaire. Non, il n'y a pas de recette miracle. La vraie question, c'est d'abord, je pense que c'est d'avoir une ligne éditoriale qui soit propre, qui soit. Bon, c'est-à-dire être soi-même. Ce qui est un conseil classique dans la rédaction de contenu, hein, il y a un fameux bouquin américain qui s'appelle On Writing Well, et qui est de William Zinsser, qui est la référence pour les gens qui écrivent du contenu qui n'est pas, enfin, non-fiction writing, comme on dit en bon français, et qui dit un truc simple, il dit, quand vous écrivez pour les autres, mais en fait, vous écrivez pour vous faire plaisir. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on écrit pour une entreprise, je pense qu'il faut apprendre à essayer de se débarrasser un peu de tout ce fatras, comment dire, de ce carcan communicationnel, la bonne vieille charte graphique. Il faut essayer d'être un peu humain, quoi. Et ça, c'est une grosse difficulté dans les entreprises. Parce que d'abord, enfin, c'est facile à dire qu'il faut être humain, mais en même temps, il y a le respect de la charte, il y a le respect des règles, il y a des choses qui sont très complexes. Donc, il faut trouver une sorte de
D'équilibre.
chemin un peu entre les deux. Hein, c'est facile de le faire quand on est soi, quand on est fatigué de PCB to B, mais c'est plus difficile quand on est fatigué de, je sais pas, IBM ou Orange ou une grosse société. Hein, c'est toujours plus difficile. Donc ça, je pense que c'est les deux sujets principaux. Et puis après, le troisième, c'est, je dirais, il faut apprendre à travailler dans une logique de bouche à oreille. Donc il faut avoir,
Intéressant.
et la logique de bouche à oreille, elle commence toujours par essayer de produire un contenu qui sorte du lot avec une idée originale. Voilà, alors c'est, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, hein, parce que il faut la sortir, l'idée originale. Et en plus, ça marche pas à tous les coups, donc c'est le quatrième point, il faut être patient.
Ok. Hyper intéressant. Donc, si je résume, Yann, c'est essayer d'être authentique et d'apporter un peu plus cette touche de créativité là où c'est vrai quand on est une plus grosse société, PME ou même dès l'échelle de TPE, dès qu'on commence à processiser les choses, là on tombe un petit peu dans. On essaye de mettre le contenu dans des moules et on perd un peu de cette de ce jus de créativité. OK.
Et pour rebondir sur le commentaire qui est en bas à droite, l'intelligence artificielle, laissez-les à des machines. Voilà. Si vous
OK.
écrivez comme une machine, pour un robot, en d'autres termes pour Google, si vous voulez écrire pour Google, donnez ça tout de suite à une intelligence artificielle, elle fera ça beaucoup mieux que vous.
C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, super. Patrice,
Je vais
quel
déjà
est-ce
hurler parce qu'on m'a proposé de hurler, donc je vais être bref. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Enfin, si, tu fais comme tu veux. Moi, je vais essayer de dire trois mots qui n'ont pas été employés par Yann. Comme ça, je vais les griller pour mes deux camarades qui attendent leur tour, comme je suis sympa. La première chose que je voudrais dire, il faut de la liberté. Bon, ça peut être une façon de le dire, hein, mais moi je crois qu'on manque de liberté de parole. Il y a beaucoup de gens qui sont contraints, et je crois que si tu fais du contenu pour les autres et pour toi, mais d'abord pour les autres, il faut cette liberté. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est plus difficile chez IBM que je pensais Patrice de l'Informance. Mais néanmoins, je pense qu'il faut cette liberté, il faut cette indépendance aussi. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut ne pas avoir d'objectif. J'aime bien dire ça, j'aime bien dire j'ai pas d'objectif. Et quand j'écris des choses ou quand je propose des contenus, j'ai pas d'objectif. Autre que peut-être la conversation. Mais, donc je crois que si tu écris, tu produis des contenus pour démontrer que tu es un expert ou que tu es super pertinent ou intelligent, si c'est ça ton objectif, tu risques de rater le truc, tu vois, ou bien de jamais sortir ton contenu parce qu'il sera jamais assez intelligent. Mmh. Moi, j'écris des tas de trucs qui sont pas vraiment intelligents et ça me dérange pas du tout, en fait, puisque j'ai pas d'objectif. Donc, voilà, ça va comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, troisième point que je voulais dire et qui a pas été encore évoqué, c'est qu'il faudrait quand même apprendre à raconter une histoire. Et j'aime bien, là je grille Fabrice qui va prendre la suite. Paf, tant pis pour toi. Et moi j'aime bien l'idée qu'on promène les gens dans les contenus, parce que je travaille sur cette idée que finalement, si tu devais passer plus que 10 secondes à explorer un contenu quel qu'il soit, que ce soit un podcast ou un texte ou autre chose, eh bien, c'est pour t'évader un petit peu de ton quotidien ou de ta pression du boulot ou de ta, enfin, j'en sais rien, tu vois. Sinon, pourquoi tu le fais, quoi? Donc, tu le fais pour t'informer, mais aussi pour te balader. Et j'aime bien l'idée que les contenus soient conçus comme des histoires dans lesquelles on se promène et où on ne sait pas forcément où on va arriver à la fin. Alors, moi, ce que je déteste, c'est les contenus où je sais déjà comment ça va se terminer. Abonne-toi, achète mon stylo, découvre mon prochain webinaire, tout ça me fatigue. En fait, j'aime bien me promener sans savoir où je vais. Voilà, tu vois, c'est ça mon idée.
Trop cool, trop cool, trop cool. Du coup, on te laisse rebondir, Fabrice, malgré Patrice qui t'a grillé toutes tes cartouches.
Non, mais je partage avec Patrice, il le sait, enfin ce goût pour le storytelling. Effectivement, j'ai toujours pensé qu'il fallait créer un chemin. Enfin, je vais pas faire le hero journey, tout le monde connaît ça par cœur, mais néanmoins, c'est enfin, tu vois, en ce moment je saute du coq à l'âne, mais je fais une formation sur le copywriting, et c'est marrant parce que je me replonge finalement dans toutes ces techniques de storytelling. Et il y a toujours cette idée, finalement, parce qu'on tourne toujours autour de ça, soit on raconte une histoire, soit... Mais c'est comment je vais créer à la fois de l'attention et créer le désir, parce que c'est les deux pôles du contenu. Donc, créer de l'attention, bah, c'est embarquer, et là, je rejoins évidemment Patrice, c'est embarquer le lecteur ou l'auditeur avec toi, c'est que on va raconter une histoire, et on n'a pas forcément un objectif. Alors si, l'objectif, c'est d'embarquer l'autre, c'est encore une fois, c'est de créer cette audience et de le faire rentrer dans un désir, alors qui peut être le désir d'acheter le produit, par exemple. Aujourd'hui, il y a un terme qui est très très à la mode, c'est les narratifs. Tout le monde parle de narratifs pour parler d'éléments de langage. Mais il y a bien cette idée de dire, ok, je raconte une histoire, je vais partager avec toi des informations, je vais te faire rire ou pas, je vais créer de l'émotion, mais toujours dans cette idée de créer une légère tension qui peut être celle de la conversation, qui peut être celle de la dialectique, de l'échange, mais je vais quand même t'emmener quelque part. C'est-à-dire, soit je vais t'informer, je vais te divertir, je vais te faire rire, ou je vais t'apporter de l'information. Donc ça, c'est important. Et je rejoins là aussi Patrice, mais enfin, on sait qu'on est profondément d'accord sur beaucoup de sujets, dans cette idée qu'il ne faut pas forcément avoir un objectif autre que de dire je partage quelque chose avec toi pour créer une relation. Parce que, encore une fois, l'idée force de tout ça, c'est comment je crée une relation. Alors après, on peut parler technique dans tous les sens du terme, peu mm-hmm. importe. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je maintiens une relation pour t'accompagner à un moment donné sur un sujet X ou Y. Et là, on n'a pas fait mieux que le storytelling, on n'a pas fait mieux que tous les frameworks que connaît par cœur Frédéric, Il parlait de Robert Cialdini, ok, donc les sept leviers de l'influence. Mais c'est toujours cette idée, comment je rentre dans le désir de l'autre, quel que soit son désir.
Ok, hyper intéressant.
Et le contenu, c'est ça.
Ok. Donc, ce que je retiens pour le moment, créativité, authenticité, pas forcément associer tout de suite un objectif précis autre que du partage et donner de la valeur, et bien évidemment, le pouvoir du storytelling, le pouvoir d'embarquer. On adore les histoires. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur comment rendre un contenu résonnant avec son audience?
Oui, je vais essayer de pas redire ce qu'a dit, ce qu'ont dit de manière excellente mes collègues. Donc, je dirais que l'inbound marketing, c'est aussi faire parler les autres. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place et je sais que Yann le fait aussi très régulièrement. C'est le meilleur contenu. Enfin, je dirais pas que c'est pas le meilleur contenu, mais un contenu qui va attirer de l'attention et qui va t'attirer de la visibilité, c'est souvent de faire des interviews d'experts dans ton domaine. Et moi, je le fais énormément. Et souvent, en fait, tu vois, sur mon blog, comme je t'ai dit, il y a 5 ans, j'étais totalement inconnu sur la thématique du centre de contact et de l'enquête de SAT. Et j'ai commencé à faire des interviews d'experts, de consultants, etc. Et c'est vrai que, quelque part, tu prends un petit peu de leur image, tu prends un peu de leur notoriété et finalement tu deviens un expert. Et donc et même je connais plusieurs personnes dans ce domaine qui ont lancé des podcasts qui étaient très peu connus, qui étaient même on va dire des gens qui étaient peu ou pas du sérail, et en créant un podcast, en créant un blog, en faisant des interviews, tout d'un coup, ils se sont attirés une image d'expert parce qu'ils ont un petit peu attiré de la lumière sur eux, ils ont attiré de l'expertise. Donc là, ça, c'est important. Je pense que dans une stratégie de contenu en 2023, si tu ne fais pas ça, et en fait, tu loupes un truc parce que tu vas créer toi-même ton propre contenu, mais ça va être un peu long et tu n'auras pas cet aspect caisse de résonance. Bien sûr, ton contenu à toi, comme le disait très justement Yann, Patrice et puis Fabrice, il faut qu'il soit original. Moi, je sais et je fais attention à ce que quand j'écris un article de blog, j'en fais un par semaine, max deux, mais vraiment deux, c'est vraiment quand je fais un truc. Mais je dois me dire, quand j'ai lu cet article, même moi, j'ai appris quelque chose. Où je dois me dire, non, mais c'est pas juste un contenu simple. Tu as parlé tout à l'heure d'outils de génération automatique de contenu. Il y en a pas mal qui existent. J'en ai testé encore. Un qui est assez sympa, c'est copy.ai, où tu mets des trucs de texte et il te crée du texte. Mais le problème, c'est que, certes, c'est du français, mais c'est comme ces rédacteurs offshore, ça va être du français un petit peu insipide, un petit peu corporate. Et en fait, la personne qui va arriver sur ton site va voir ça, elle va avoir un truc, je dis pas une bouillie, mais avoir un truc qu'elle a vu 50 000 fois et va se dire non, mais c'est pas top, c'est pas un expert, c'est pas génial. Il va pas se dire waouh, comme je disais, comme moi, j'essaye de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va zapper et il va pas te mettre dans sa shortlist. Parce que dans le B2B, moi, je le sais, le but, c'est d'être dans cette shortlist. Et le jour où il y a un intérêt, le jour où il passera à l'action, il faut qu'il t'ait dans ta shortlist et dise ce gars-là, il est dedans. Et nous, notre défi chez Locan, c'est justement d'être dans cette shortlist parce qu'il y a tellement d'acteurs dans le métier. Et exact. Les gens disent, non, mais parfois, ça nous est arrivé. Non, mais on ne vous a pas retenu parce qu'on a vu que les leaders dans le secteur, c'était tantôt, titi, tata. Ils disaient, mais non, mais nous, on est pareil, on est même clients, etc. Donc, il faut travailler là-dessus et travailler sur les bons contenus. Il faut bien sûr, moi, je parle beaucoup des témoignages clients, passer sur des thématiques particulières. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, je vais parler des autres, mais c'est faire parler les autres. Sur LinkedIn en particulier, tu n'écris pas la même manière que sur un article de blog. Un article de blog, tu vas mettre en prof, te dire « ouais, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, je suis vraiment en top-down ». Par contre, quand tu es sur les réseaux sociaux, moi, à chaque fois, je suis comme disait Fabrice, il faut faire du copywriting, il faut réécrire. Il ne faut pas chercher à pousser ta science, mais il faut dire « mais qu'est-ce que tu en penses ?» etc., etc. On est vraiment dans ce mode-là. Autre point également, quand on fait de la création de contenu, on parle des contenus fermés, il est essentiel de faire de la B-testing et de tester ces contenus. Moi, je l'ai vu en changeant une image, en changeant un contenu par rapport à un autre, tu peux multiplier par deux quasiment ton taux de conversion. Et par exemple, le fait d'avoir un bonus contextuel selon ta catégorie, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ça, vraiment, tu peux vraiment avoir des bons résultats. En revanche, tu vois, moi je dis, et tu l'as dit tout à l'heure, moi j'estime à peu près à 1% de leads qualifiés lorsque tu fais de l'inbound marketing via du SEO. Tu vois, t'as un lead sur 100 où tu es à peu près dans la cible, où il y a peut-être une possibilité de quelque chose. Mais 99, et ailleurs. Et donc, le but, c'est de distinguer le bon qu'un livret. Tu parlais tout à l'heure, OK, c'est bien de récupérer les coordonnées, mais nous, on le voit bien, quand on récupère les coordonnées des personnes, eh ben, en fait, on fait un tri tous les jours et on voit, tiens, celui-là, il est directeur d'expérience client, il est dans telle thématique, il a peut-être pas atteint le nombre de points, il va peut-être passer par une séquence, mais quelque part, cette personne-là, je l'invite sur LinkedIn ou j'essaie de le contacter en disant, tiens, vous avez téléchargé tel truc, est-ce que ça vous intéresse, etc., etc., et passer une relation one-to-one. Parce que dans le domaine du B2B, en tout cas haut de gamme comme chez nous, comme Zeyan, tu ne fais pas de la masse, tu n'es pas dans le tunnel de vente vraiment. Et ça, c'est vraiment super essentiel. Après, le dernier point, je dirais réexploiter son contenu en multicanal. C'est bien de créer un super article de blog, mais après, il faut exploiter. Là, on fait un podcast, mais ça peut être transformé de podcast en article de blog avec un résumé. Ça peut être après renvoyé sur YouTube, etc., etc. Et c'est vrai que quand moi, je fais un bon article, alors je le fais moins depuis quelques temps, mais je fais un article de blog, je fais un screencast, donc c'est-à-dire que je filme mon écran en redisant de manière un peu différente ce que je fais. Ensuite, donc je la mets sur YouTube, celle-là, je la mets l'audio sur mon podcast. Ensuite, après, si j'ai un petit peu de temps, j'essaye de mettre une petite infographie, etc. Et là, tu vois, j'avais fait un très bon article sur les conseils de community manager. D'ailleurs, c'est peut-être pas moi qui ai fait un bon article parce que c'était des astuces que j'ai récupérées dans un groupe. Les gens, avant qu'ils arrivent sur le groupe Facebook, ils doivent donner une astuce, s'ils veulent, pas obligé. Et donc, je compile les meilleurs. Et donc, j'ai dit à mon assistante, tiens, tu prends toutes ces astuces, tu vas en faire une petite image et on va les publier sur les réseaux sociaux. Alors, tu ne publies pas sur LinkedIn parce que ça a saoulé les gens, mais tu publies sur Twitter, etc., Instagram. Et ça permet d'animer ton compte. Voilà, donc je pense beaucoup que quand tu as passé du temps à créer un bon contenu, il faut le valoriser. Et comme je suis tout à fait en phase avec tout le monde, un contenu automatique, un contenu off-floor, ça peut être bien quand tu veux te positionner sur quelques mots-clés, mais c'est pas ça qui va te donner une image d'expert. C'est pas ça qui va te faire en sorte que les gens vont se dire, lui, je le mets dans ma shortlist. Voilà.
Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant et je te rejoins.
Quelque chose sur le contenu off-floor, parce que ça m'arrive souvent de travailler avec des camarades britanniques. Et au Royaume-Uni, quand on signe avec un client, on s'engage à ne pas travailler avec l'esclavage moderne. C'est le Modern Slavery Act. Donc, on n'a pas le droit de travailler avec Fiverr, avec des gens comme ça, ou avec des offshore à Madagascar ou ailleurs, qui exploitent des gens pour faire ce qu'on pourrait faire en Europe moins cher. Et en exploitant des gens de façon...
Ok, c'est important. Exact.
Important parce qu'en France, on adore donner des conseils à tout le monde, des conseils de morale. On pourrait peut-être prendre le son.
Ouais, ok. Effectivement, bon point. Donc, Fred qui rajoutait la brique expertise et ça rejoint ce que moi, j'allais dire, effectivement. Donc, pour avoir un contenu qui résonne et bouclé sur ce sujet de contenu qui doit résonner avec son audience, c'est effectivement avoir un contenu qui soit écrit par un expert métier à la jeunesse du contenu. Quand on fait un contenu destiné à des RH, il est essentiel que le contenu soit écrit à la base par quelqu'un qui a un background, qui a une expérience RH. C'est un must-have aujourd'hui si on veut avoir un contenu qui résonne avec son audience. Et on ne veut pas ces fameux articles qui ne sont que du recyclage de ce qui a été trouvé sur Google et des informations de premier niveau. Donc ça, c'est la première chose, c'est de ne pas confondre le contenu qui peut être à vocation à être référencé sur Google, qui justement a lancé un peu cette mauvaise pratique du copier à droite à gauche, de la reformulation et du travail un petit peu peu éthique, dirons-nous, qui a existé autour du SEO. Google, bien évidemment, essaie de lutter contre ça, mais c'est clairement quelque chose qui s'est passé. On tombe pas dans ces travers-là. On va chercher du contenu expert, et quand on dit du contenu expert, ça doit être écrit sur le fond par un expert métier, et le marketing, lui, va aider plutôt dans sa mise en forme, va optimiser le contenu pour qu'il soit consommé. Donc comment on optimise le contenu pour qu'il soit consommé? C'est de faire en sorte qu'il soit décliné en différents formats. On parlait d'audio, de vidéo, de carrousel, d'images, d'articles de blog, etc. Il faut décliner pour que, comme ça, il y en ait pour tous les goûts. Et on va faire en sorte que la consommation soit au maximum, au plus native sur le canal de distribution. C'est-à-dire que quand vous poussez un contenu sur LinkedIn, au lieu de pousser juste « voilà mon nouvel article et le lien et je fais rediriger sur mon site web », eh ben non, c'est très dur de faire sortir les gens de la plateforme où ils sont. En général, ils veulent rester sur la plateforme, ils sont là parce qu'ils sont bien sur LinkedIn, ils veulent rester sur LinkedIn. Donc, si vous voulez avoir des chances que votre contenu soit consommé, faites en sorte qu'il puisse être consommé directement sur LinkedIn. Donc, consommation de native, bien évidemment, pour moi qui suis partisan d'ouvrir ces contenus, ça participe à optimiser cette consommation du contenu. Donc, plus on optimise pour la consommation du contenu, plus on fait passer ces messages clés, plus on a de chance derrière qu'on vienne toquer à notre porte, que le prospect vienne toquer à notre porte. C'était super intéressant ce que vous avez dit sur ce point-là. J'aimerais parler avec vous plus en détail sur mon cas précis ABCD.
Je voudrais rebondir déjà sur ce que tu dis. Tu parles de consommer du contenu. Alors, ça, c'est vraiment une expression qui me fait bondir. Si c'est pour consommer du contenu, effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux faire de l'offshoring ou de l'IA et pondre des mots-clés à la queue leu-leu, ça n'a pas grand intérêt. Justement, il ne faut pas consommer du contenu et il ne faut pas donner des choses à consommer. Enfin, sauf si on a envie de faire du McDonald's de contenu, mais c'est justement le sujet, c'est si tu veux intéresser une audience, il faut être dans l'échange, il faut être dans la valeur ajoutée, il faut être dans la...
Consommer peut paraître péjoratif, mais on est complètement aligné sur ça.
C'est juste une question de vocabulaire, mais le vocabulaire...
Exactement, tu as raison.
Cédric, ou je crois que c'est Cédric, ouais, qui nous dit que de toute façon, l'offshoring sera tué par l'IA. Je pense qu'il a raison, effectivement. Si c'est juste pour pondre du contenu de n'importe quoi, qui est en fait une sorte de cadavre exquis qui est mis avec des mots-clés qui sont mis les uns à côté des autres et qui font à peu près des phrases à peu près grammaticalement correctes, un ordinateur saura faire ça beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement qu'un individu. Alors après, est-ce que Google sera capable de suivre le mouvement
Juste Yann, je te coupe sur ça parce que j'ai pas envie qu'on je nous vois aller lentement mais sûrement vers ce sujet de l'IA, de l'offshore, etc. On pourra dédier
un sujet majeur.
Exact,
c'est un sujet fondamental.
C'est un super sujet et je me le note. Juste
pour ça, je dirais que ça sera incontournable. Si on ne le traite pas, on le traitera.
Ça marche, on le fera. Je serais très curieux d'avoir des alternatives opérationnelles au tunnel de conversion qui a pour vocation à découper les problèmes marketing et commerciaux. J'ai du mal à comprendre pourquoi Yann est contre. Est-ce que tu peux
Je suis contre rien du tout. C'est simplement que quand on est en haut de marché en B2B, l'inbound marketing est inapplicable. Donc, plus on va aller dans des métiers de niche et plus on va travailler à l'envers. Plus on va s'orienter vers ce qu'on appelle le account-based marketing. Alors bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a différents types de account-based marketing déjà pour commencer. Et puis, il y a différentes façons de le mettre en œuvre. Mais en gros, si je veux schématiser, d'un côté, l'inbound marketing, je vais créer un contenu, j'attends qu'il y ait des gens qui viennent et je les fais rentrer dans un tunnel, si tant est que j'en ai un. Et à la fin, un miracle apparaît et il y a quelqu'un qui clique pour acheter. Bon, OK. Et puis, le account-based marketing, mais c'est un petit peu l'inverse. Ça ressemble un petit peu à ce qu'expliquait Frédéric, ce qui est un peu logique parce que lui, il vend des missions, il vend des produits et des fois, il faut un an pour vendre un truc. Et il a un interlocuteur. Peut-être au mieux, il en a peut-être deux ou trois ou cinq dans la même entreprise, mais ça va rarement au-delà. Donc, il n'écrit pas pour 1000 personnes, il n'écrit pas pour 10 000 personnes, il n'écrit pas pour 1 million de personnes, il écrit pour une personne ou cinq personnes. Voilà. Donc, ce n'est pas une question d'être contre. Je suis contre rien du tout, moi. D'ailleurs, je ne dis pas que le inbound marketing n'est pas utile dans une stratégie d'ABM parce qu'il est tout à fait utile dans une stratégie d'ABM en appui. Et d'ailleurs, le gated content aussi est utile en appui, mais il n'est pas une fin en soi. Une fois que j'aurai fini mon gated content, personne ne va cliquer pour acheter la solution de Frédéric. Non. Mm-hmm. Au mieux, peut-être, il va téléphoner à Frédéric pour dire « Mais attendez, j'ai lu votre truc, là, ça m'intéresse, vous pourriez venir m'en parler ?»
Ok, voilà, je rajouterais Benoît, moi je suis un petit peu d'accord avec le fait que il y a différents go-to-market en fonction du panier moyen de son produit ou de son service. Donc, tu l'as bien pointé, Yann, sur la distinction de quand on est en haut du panier ou avec des choses plutôt petits tickets, très transactionnelles. Pour moi, pour rapidement répondre à Benoît, qui est une question assez intéressante, ma vision, ce n'est pas forcément d'aller vers l'ABM ou de l'inbound ou quelque chose comme ça. Pourquoi le funnel est un peu cassé, c'est parce qu'on peut difficilement taguer une personne et dire « Ah, cette personne, elle est en phase de awareness. Ah, cette personne, elle est en phase de considération. Ah, cette personne, elle est en phase de conversion, etc. etc. » C'est pour ça que ce truc est un peu over-engineeré. C'est un peu surpenser la chose parce qu'on n'a pas cette maîtrise marketing de savoir exactement quand un prospect est dans tel état. C'est beaucoup plus chaotique, c'est beaucoup plus complexe. Donc moi, j'aime bien découper en deux scopes. Un scope où je parle avec des prospects qui sont en recherche active et un scope où je parle à des prospects qui sont en recherche passive. Et ça, je peux le décanter. Quand je suis en train de discuter avec des personnes en recherche active, je suis sur ce qu'on appelle des canaux d'intention. Ça va être Google et tous les moteurs de recherche. Là, je sais que le prospect, il est en train de rechercher avec des requêtes clés quelque chose sur mon sujet d'expertise. Donc là, je peux définir de façon très pragmatique qu'il est en recherche active. Alors que quand il est sur LinkedIn, quand il est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à un événement comme celui-ci, etc., je ne vais pas prendre la présence ou le téléchargement, la présence à un événement ou le téléchargement d'un contenu comme un proxy de recherche active. Je vais considérer ça comme une recherche toujours passive. C'est juste par curiosité à ce stade-là. Et à ce moment-là, j'ai un discours beaucoup plus destiné à une personne en recherche passive. Donc, cette distinction de deux objectifs, deux dynamiques et deux contenus distincts, c'est comme ça que je casse en fait cette alternative au funnel qui a été proposée il y a quelques années, mais qui me paraît pas pragmatique dans le marketing. Donc, super question. Est-ce qu'on a d'autres questions avant
de passer? Il y a plein de questions. Il y a une question sur le cold calling et il y a une question d'Emilie aussi sur le mélange entre contenu et l'importance du SEO et comment on le fait cohabiter avec des contenus d'intérêt, on va dire.
Ok, super.
Ouais. Vaste sujet, ça.
Qui veut rebondir rapidement sur le cold calling?
Le cold calling, c'est une catastrophe.
Ça sert à rien. Yes.
On perd but. Si vous avez envie de perdre votre temps et votre argent, allez-y. Par contre, attention, il ne faut pas confondre cold calling et prospection. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Les méthodes d'ABM sont des méthodes qui sont basées sur le contenu et qui permettent d'aller prospecter de manière intelligente. Et donc, du coup, de répondre à la problématique qui était posée ou à laquelle était censé répondre le cold calling, mais de manière intelligente. Voilà. Donc, il faut prospecter de manière active, hein, par contre. Hein.
Le cold calling est pour moi en totale friction, et je pense qu'on a exprimé unanimement ce point-là, et en totale friction avec la façon dont les acheteurs B2B, les prospects B2B achètent aujourd'hui. Aujourd'hui,
même
on
B2C,
a... Même B2C, exactement. On a aujourd'hui des prospects qui sont autonomes dans leur recherche et qui clairement veulent faire leur veille de leur côté comme des grands. Et le dernier truc qu'ils veulent, c'est être contactés par un commercial sans l'avoir demandé. On a aujourd'hui des prospects qui sont hyper connectés. Aujourd'hui, ils sont hyper connectés avec leur pair, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à des événements, que ce soit via des podcasts, des ateliers, etc. Aujourd'hui, hyper connectés. Et ils favorisent brutalement la vie des pairs, de leur pair, versus le commercial qui prêche pour sa paroisse. Donc, avoir encore du cold calling, de façon générale, je dirais que son efficacité a drastiquement baissé. Maintenant, j'en parlais hier, on a eu un live dédié à ça. Il y a toujours des secteurs, des cibles peu digitalisées, des choses comme ça, des exceptions. Il faut, des fois, nous, marketeurs, on tombe dans des généralités, mais il faut toujours se dire qu'il y a des cas précis où effectivement le cold calling, le cold emailing, l'ABM ou l'inbound va toujours être pertinent parce que vous êtes dans un cas précis. Donc, il faut vraiment prendre avec des pincettes ce qu'on dit. Et voilà.
C'est toute la difficulté de la conversation. C'est-à-dire que, comme on le rappelait tout à l'heure, le B2B, c'est juste un... Je ne dirais pas que ça veut rien dire, mais bon, sur le cold calling, par exemple, si tu es dans le bâtiment, ça peut être pertinent. parce que pour plein de raisons, pour plein de raisons. Là où ça va l'être moins, sur la fiscalité. Mais in fine, de quoi on parle ? À qui tu parles ? Comment tu lui parles ? C'est entre le bâtiment, tu parlais de vendre une centrale nucléaire, c'est encore un autre sujet. Vendre des trombones, c'est pas forcément. Tu vois, c'est à qui tu parles ? Donc, c'est comment je vais nouer la relation avec ma. Alors, j'aime pas ce mot, mais avec ma cible. Et parfois, un appel téléphonique qui, je le rappelle, est une conversation. C'est propre d'un appel téléphonique. Ça peut être tout à fait pertinent parce que tu as eu 12 interactions sur LinkedIn, sur Twitter, sur whatever. Et OK, pourquoi pas? Ce n'est pas du cold calling, ça devient un échange, pas IRL, mais un échange d'humain à humain. Parce qu'à la fin de la journée, la vente, elle va se faire dans la relation que tu vas instituer avec la personne. Et on le sait bien que la plupart des achats, quoi qu'on en dise, sont relativement irrationnels. Même si tu fais un benchmark de 10 000 plateformes d'IA pour écrire, à la fin, tu vas prendre celle qui va te sembler le plus intuitive, avec le meilleur look, qui sera là. C'est comme ça que ça se passe. À un moment, il faut arrêter aussi de fantasmer sur une espèce de rationalité dans l'approche. On parlait du funnel. Le funnel, c'est une manière de processer en entreprise. Parce qu'à un moment, il faut organiser tout ce bordel.
On passe à l'autre sujet. On est déjà à une heure. Merci pour vos questions qui sont super intéressantes. Ça nous donne plein de billes pour de prochains événements. On a parlé d'IA, d'offshore. On parle de cold calling, de prospection sortante, etc. C'est des sujets qui demandent un petit peu de temps. On va passer à la troisième question. Donc, la troisième question, c'était au niveau du lead scoring. Est-ce qu'aujourd'hui, être dans une dynamique où on score ses prospects et on va les nurturer via des séquences email en partie, est-ce que ça fait toujours sens? On a touché un petit peu ce sujet avec la première question. Est-ce que on peut avoir ta réponse, Frédéric, s'il te plaît, sur ce sujet-là?
Alors, redis-moi exactement ce que tu voulais, parce que là, j'étais en train de répondre aux commentaires. Très intéressant.
Pas de souci.
Parce que justement, je répondais à Benoît, parce que Benoît travaille pour Plaisir et c'est justement notre solution de marketing automation. Donc, ouais. Ça prouve que tu peux faire on fait un petit creux de l'ABM avec des solutions de marketing automation classiques, en fait.
Cool. Ah, la question, c'était est-ce que le lead scoring, c'est toujours quelque chose de pertinent? Est-ce que scorer, c'est important? Et nurturer par email, est-ce que c'est toujours pertinent?
Mais en fait, justement, c'est ce qu'on fait avec Plaisir.
Ok.
C'est là, justement, qu'on voit des limites. Pourquoi? Parce que justement, quand tu scores, nous on le voit bien, quand les commerciaux ils ont besoin de leads, ils vont dire augmente le score, enfin diminue le score, emmène-moi des leads sur Salesforce, allez hop, c'est bon. Puis quand il y en a un peu trop, qu'un salon dit non, mais il y a trop de leads, y a pas... En fait, le problème c'est que nous en fait on génère énormément de leads, mais vraiment énormément de leads, plusieurs dizaines ou sur centaines par mois. Et donc en fait, le but c'est pas de générer plus de leads, mais c'est générer de meilleurs leads.
Merci.
Les bonnes personnes, parce que vraiment c'est ça notre souci. Toi là, je te dis, la semaine prochaine, l'événement, on a plus de 1100 personnes. Comment on va faire pour relancer ces 1000 personnes? Alors il y a des outils, on a tenté par exemple le message vocal. Qu'est-ce que c'est? En fait, les gens ils s'inscrivent au webinaire, ils laissent souvent un numéro de portable, tu déposes en fait un message vocal préenregistré qui fait un peu personnalisé, d'ailleurs c'est très utilisé dans l'e-commerce pour améliorer la fidélité et inciter à avoir des avis, et ça marche dans l'e-commerce, mais dans le cas d'un webinaire, ça marche pas trop, parce que les gens en fait ils voient ton message et en fait comme ils te connaissent pas, qu'ils sont pas en fait dans la phase de maturation d'achat, ça donne très très peu de résultats. Et en fait, faut utiliser les bons outils au bon moment. Mais donc le scoring, oui, ça te permet en fait d'avoir quelque chose un petit peu qui va te faire descendre en fait dans ton Salesforce des gens. Mais comme je le disais, il y a certaines personnes, ils ont un score de 5 parce qu'ils ont téléchargé un tout petit contenu, mais c'est des gens qui sont intéressants à contacter, et tu les ajoutes dans LinkedIn, tu commences à avoir une conversation avec eux, etc. Et voir si tu peux les appeler au téléphone, leur envoyer un email, dire tiens, vous avez téléchargé tel truc. Et parfois, tu as des contenus qui valent directement, nous c'est 40 points, 40 points, paf, tu passes dans le CRM parce que tu as téléchargé un cahier des charges, parce que tu as téléchargé quelque chose qui a de la valeur, un cas client ou des choses comme ça. Donc le scoring, oui, mais en fait, on voit quand même les limites que dans le temps, le scoring, Ça ajoute des points, certes, mais c'est peut-être pas forcément ce qui est le meilleur. Et puis, on le voit bien, et moi je le dis toujours, dans le B2B, le lead, en fait, est une denrée périssable. C'est-à-dire que si tu appelles pas tout de suite, tu es foutu. Et je sais que je discutais avec Olivier Flatet de Bouygues Télécom Immobilier, et il me disait bien que quand ils avaient une demande d'information sur leur site, c'est le premier qui tire, qui après arrive à tirer un avantage. Et dans le B2B, c'est pareil. Puisqu'en fait, généralement, quand tu appelles le premier, tu apportes la valeur, tu apportes des conseils, etc. Quand tu es le cinquième ou le sixième à avoir appelé au téléphone, ben c'est trop tard. Les concurrents sont passés par là, ils ont montré l'expertise, et tu vas juste apporter quelques petits trucs en plus. Donc, cette côté réactivité, tri, sélection est vraiment essentielle.
Ok, ça marche. Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet en complément?
Alors, juste rien, parce que ce que vient de dire Fred, je partage, mais à 10 000%. Donc, mais encore une fois, je reviens à cette idée que le scoring est utile, tout ce qu'a dit Fred, mais aussi parce qu'à un moment, il faut aligner marketing et commercial. Donc, il y a un aspect purement technique aussi. Mais
Ok,
rien de
ok,
plus.
ok. Patrice?
Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Parce que j'étais en train d'essayer d'appeler tous les gens qui sont connectés avec nous sur LinkedIn pour pas perdre de temps, tu vois, et les transformer en lead scoré 10. Donc là,
J'adore. J'adore, j'adore. Et je vais rebondir après sur ta
Non,
remarque.
mais pour revenir sur le sujet, je trouve ça un petit peu fou qu'on essaye de scorer des gens. Enfin, moi, ça.
Ouais,
D'ailleurs, je
clairement.
préfère avoir des mauvaises notes, en fait, comme souvent. Et ça m'agace d'imaginer. Mais je comprends hein, la démarche. On veut avoir une vision industrielle. On a 1 000 personnes à un événement, comme Frédéric le dit. Comment on fait, quoi? Bon, donc,
Ouais.
on essaye d'appliquer des outils de décision et de se dire celui-là, je l'appelle, celui-là, je l'appelle pas. Moi, j'ai discuté hier avec des directeurs marketing de l'IT. Et je leur ai dit, est-ce que je peux t'appeler? Ben non, parce que je réponds pas en fait, donc c'est pas la peine. Je me demande en fait pourquoi, et je l'ai lu dans un commentaire. Je me demande pourquoi on voudrait appeler des gens qui ne veulent pas qu'on les appelle. Ça me paraît quand même étonnant, quoi, tu vois, comme idée.
Exactement, exactement,
Et
merci.
donc, c'est pas parce que je suis venu à ton événement, Fred, que j'ai envie d'acheter ta solution. Et inversement, c'est peut-être parce que je suis venu à ton événement que j'ai envie d'acheter. Mais ça, et c'est pas parce que j'ai téléchargé je ne sais quel document que je vais devenir ton client. Il y a aucune possibilité de faire des corrélations de ce genre. Enfin, ça n'existe pas en fait. Si on était purement probabiliste ou statisticien, on peut pas tout mélanger, quoi. Je veux dire que, en effet, les gens qui sont venus à ton événement peut-être s'intéresse plus à ce que tu fais que les gens qui sont pas venus. Bon, bah, jusque-là, oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, j'ai rien inventé en disant ça. Donc, une fois qu'on a posé ça là, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, mon idée de ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est quand même que, tout à l'heure, pour revenir sur le mot employé par Fabrice, tu crées du désir. Alors oui, et je rejoins ce que dit Frédéric, le désir, il va être un petit peu éphémère. Et si tu attends 6 mois, bah peut-être que ça va être trop tard, quoi. Je serais passé à autre chose. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais comment entretenir cette flamme? Puisque c'est ça, en fait, ton sujet. C'est pas autre chose. Moi, j'ai rencontré je vous assure, je rencontre des gens. J'ai rencontré des gens, je leur ai parlé une fois. Je ne sais pas ce que j'ai dit, hein, sans doute quelque chose de différent de ce qu'ils attendaient. Et à la fin, 1 an et demi après, il m'appelle pour me dire, ah, j'ai une réflexion sur ce sujet-là et je sais que c'est avec toi que je voulais le faire. Voilà. Donc,
Génial.
en fait, on peut pas scorer ça. C'est-à-dire, c'était inscorable. J'avais absolument aucune idée sur ce qui allait se passer 1 an et demi après.
Yes.
Et je suis d'accord que pour les entreprises, on va pas attendre 1 an et demi. C'est bien ça le problème, en fait. Je crois qu'on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais il y a intérêt à effectivement continuer d'entretenir ce désir le plus vite possible parce que c'est ça qui va améliorer ce qu'on appelle la conversion. Mais il y a aussi un détachement à avoir. Après tout, si cet événement était génial, peut-être que j'aurais un vrai besoin dans 1 an ou dans 2 ans. Et c'est à ce moment-là que je viendrai vers toi. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je ne suis pas certain qu'on ait trouvé de réponse dans les outils et dans les process industriels aujourd'hui. Voilà.
Hyper intéressant, je rebondirai après. Yann, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le lead scoring et le lead nurturing?
En fait, c'est toujours la même question, donc c'est toujours la même réponse. Si tu as 1 million de clients, tu peux faire des
Ne
statistiques et
nous fais pas la
savoir que.
ne nous fais pas la Suisse, Yann. Ne nous fais pas la Suisse. Donne-nous une réponse clivante. On veut du clivant.
Ah, c'est clivant. Non, c'est pas. Non, faut arrêter ça.
Je comprends, je comprends.
C'est ça le problème, en fait, de base. Vous voulez tout simplifier. Il y a le blanc, il y a le noir. Ben non, c'est pas. Je suis désolé, le monde n'est pas aussi simple que ça. Ou
C'est
alors,
vrai.
il faut arrêter les niaiseries comme ça. Il faut
Donc,
arrêter.
dans ce
Donc,
cas-là,
il n'y a pas simplement une réponse magique, c'est ni dans un sens, ni dans un autre. Vous vous trompez.
dans quel cas
Donc,
tu le
voilà,
préconises,
le clivant, c'est clivant.
dans quel cas tu le préconises, Yann, le lead scoring
Mais
à ce
c'est
moment-là?
simplement le lead scoring peut avoir un sens quand tu fais des statistiques sur 1 million de clients et que tu vends 1 million d'abonnements et que tu t'aperçois que statistiquement, une fois que quelqu'un est rentré dans le fameux funnel, parce qu'il y a un funnel sur ce genre de produit de masse, eh bien, une fois qu'il aura fait telle action, plus telle action, plus telle action, il va se passer quelque chose. Tu as plus de chances, c'est de la probabilité, qu'il se
Avec du
passe quelque chose.
volume,
Quand tu as
exact.
les 3 clients sur les 15 comptes nommés de Frédéric qui met 1 an pour les vendre, mais il n'y aura pas de statistiques, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qui va se faire dans ce cas-là? Chez Frédéric, on va avoir un autre type de scoring. On va avoir les Sales Qualified Leads et les Marketing Qualified Leads, qui fait écho d'ailleurs à une remarque qui a été faite dans le chat et qui était très intéressante et qui faisait référence à une étude qu'on a menée pour Sparklane sur ce qui fait véritablement la vente et qui peut être téléchargée sur vismktg.info/sparketude en minuscule et qui disait que 30%, je crois, de mémoire, des commerciaux ne suivaient pas les leads ou c'est l'inverse, enfin peu importe, il y a une proportion minimale, je ne me souviens plus du chiffre exact, une proportion minimale des commerciaux qui suivent les leads du marketing. Et alors ils demandaient pourquoi. Ben, ils demandaient pourquoi. En fait, la raison, d'abord, elle est complexe aussi, c'est très complexe parce que on va faire une moyennisation, mais je dirais en gros. Le commercial, il va faire confiance sur ce genre de métier, hein, sur les métiers plus de Frédéric que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il va plus faire confiance à son intuition qu'à une machine qui calcule un pourcentage. Parce qu'il n'y a pas de pourcentage. C'est une intuition. Et une intuition, et puis aussi une expérience. Je sais que mon cœur de métier, c'est plutôt les éditeurs de mid-tier qui font comme ci, qui sont comme ça, qui sont plutôt américains, etc. Et là, je ne le sens pas, ce n'est pas un client, j'ai déjà eu des expériences sur ce domaine-là. On va se référer à une expérience terrain. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution miracle pour ce genre de choses. Cette question sur le lead scoring, elle est à la fois intéressante et inintéressante. Le lead scoring est utile, il est utile, mais ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas ça qui amène une vente dans des domaines où on ne fait pas de vente dans des funnels qui n'existent pas parce qu'il n'y en a pas. Voilà.
Ok, super intéressant. Merci Yann pour ton retour. Moi, je vais rejoindre Patrice. Je ne comprends pas cette volonté de scorer sur des signaux tellement faibles. Si vous avez fait un petit peu de sales, vous vous rendez compte qu'en fait, le scoring, compter le nombre d'ouvertures d'un email, compter mettre un certain nombre de points sur le téléchargement de ABCD contenu, etc. Ça n'est pas du tout un proxy fiable sur la maturation, la qualification de ce prospect-là. C'est tellement, tellement, tellement plus complexe. Dans notre tête, il y a 1 million de choses qui se passent. Il y a des facteurs externes, etc., etc. C'est pas si linéaire que ça. Et donc, du coup, ces signaux faibles sont bien trop random quand vous faites du sales et que vous appelez des leads qui sont censés avoir un bon scoring, quelle que soit la tambouille qu'on a fait du scoring. C'est toujours bancal. Vous allez être très surpris à appeler des personnes qui sont censées avoir un bon scoring et en fait vous bâchent complètement au téléphone versus des personnes qui sont censées avoir un mauvais scoring. Quand vous les appelez, vous les sentez super réceptifs, vous êtes agréablement surpris. Donc quand vous avez fait ça, vous vous rendez compte que le scoring est pas, pour moi, il n'est pas pertinent. Il n'y a qu'un seul proxy dur, pur et dur, qui est un signal fiable, c'est est-ce que le prospect a levé la main pour demander un rendez-vous avec un commercial? S'il l'a fait, et on appelle ça une intention déclarée en Dimension, s'il a fait une intention déclarée, à ce moment-là, on considère effectivement que c'est un prospect qui est mature et bien évidemment, il faut s'en occuper en priorité. Et s'il ne l'a pas fait, s'il n'a pas demandé à être contacté par un commercial, c'est juste que pour le moment, il n'est juste pas encore prêt ou c'est que vous ne l'avez pas convaincu. Et à ce moment-là, il faut faire un travail sur le contenu pour trouver les mots qui fassent clic, l'approche qui fasse clic pour que cette personne ait envie de lever la main d'elle-même. Donc, pour moi, c'est un petit peu un brainwashing des martech, donc des outils marketing qui ont proposé ce genre de processus qui, sur le papier, tient. Hein. Sur le papier, on comprend la logique de scorer, de pas appeler trop tôt, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on est à un stade où j'estime, en fait, ne cherche plus à calculer. En fait, c'est si tu n'as pas demandé, ne l'appelle pas, c'est tout. Il n'y a pas à chercher à comprendre plus loin. N'essaye pas de timer parce que ce sera toujours trop tôt avant qu'il ne l'ait demandé. Donc ça, c'est mon point de vue sur le lead scoring. Et on va passer. Alors, je rebondis juste sur le live. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pourquoi 31%? Donc là, je reviens à la question, pourquoi il y a seulement 31% des leads qui sont traités par le commercial? Ben, c'est tout bonnement parce qu'il sait que ce scoring est pas fiable. Et Yann le disait, le commercial va utiliser son intuition, son expérience pour savoir, pour sentir les choses un peu de gut feeling. C'est parce que ces signaux ne sont pas assez fiable pour définir la maturité d'un prospect. C'est beaucoup trop chaotique, beaucoup, beaucoup trop complexe pour qu'on puisse réduire ça à quelques touch points. Émilie. Non, ça, c'est une question de Cédric. Vous prêchez un convaincu, mais ça ne semble pas une pratique tellement répandue. Donc là, j'ai loupé le début. C'est pas grave. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les remettre dans le chat ou si vous en voyez, messieurs, n'hésitez
Frédéric a
pas.
raison, hein, sur les 31%, ça dépend vraiment du type de lead. Ici, on est dans une moyenne, donc forcément, une moyenne ne veut rien dire, bien entendu.
Exactement. On est d'accord, la moyenne, c'est un peu tricky. OK. La prochaine question qui est aussi intéressante, c'est la plupart des équipes marketing, quand il s'agit d'un marketing inbound marketing, on les incentive, on les objective sur la génération de marketing qualified lead, de MQL, appelez ça comme vous voulez, de lead. Est-ce que c'est pertinent d'incentiver, d'objectiver une équipe marketing sur ce KPI précisément? Et je vais donner la parole cette fois-ci à Fabrice pour commencer sur ce sujet-là.
Alors,
Bonne chance.
ouais, bonne chance. moi, je suis toujours. Alors, si je devais faire une synthèse un peu là, on voit bien qu'il y a une tension entre l'industrialisation, le solutionnisme, la plateforme technique, d'un côté et de l'autre, on va dire une approche plus empirique, intuitive, pour essayer de gérer l'irrationalité de l'acheteur. Et donc là, je pense qu'en interne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours l'alignement, ce fameux alignement entre commerciaux et marketing. On dit, bah, le commercial, il va avoir le CMO, il va lui dire, ouais, mais tes leads, ils sont pas qualifiés, ils sont moyennement qualifiés, enfin, en gros, ils sont pas, ils font pas le job. Ça, c'est quelque chose qu'on a très très souvent. Après, le job du marketeur, c'est aussi, alors. On peut poser la question autrement, est-ce que son job finalement, c'est d'amener des leads qualifiés? C'est quoi un lead qualifié? Au regard de tout ce qu'on vient de dire, on pourrait plutôt tendance à penser que ça ne veut rien dire. Mais à un moment, on va scorer, on va le faire avancer dans un funnel qui n'existe pas, et on va dire, voilà, ça c'est des leads qualifiés, amuse-toi avec ça. Donc voilà, il y a cette tension. Est-ce qu'on parle d'une entreprise qui génère 1 000, 10 000 leads ou 15 leads? De quoi on parle? On revient toujours un peu à la même chose, c'est-à-dire cette difficulté à bien cerner le funnel, l'entreprise de laquelle on parle, et du directeur marketing. Est-ce que c'est celui d'une PME qui globalement est tout seul ou est-ce que c'est celui d'un grand compte? Dans un grand compte, oui, il va être incentivé là-dessus parce qu'à un moment, il faut bien des grilles, il faut bien des normes, il faut bien un référentiel. Mais les trois quarts du temps, je rappelle juste qu'en France, 90% des boîtes, c'est de la TPE. C'est pas un sujet. Hein.
C'est très pertinent, excuse-moi Fabrice, je te coupe. C'est très pertinent votre point sur comme vous dites, cette industrialisation. Effectivement, si on n'est pas dans un certain volume, il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas utiles. Et c'est vrai que des outils marketing, on a l'impression que quand ils en parlent, c'est le béaba de tout le monde. C'est que tout le monde est dans cette logique d'ultra volume, etc. Alors que c'est pas la réalité. Comme dit Fabrice, on est à 90-95% de TPE et ils brassent pas 1000 leads par jour, quoi.
C'est clair.
Donc ça, c'est un très bon point, Fabrice. Je te laisse finir.
Non, mais j'avais fini. Donc, tu vois, à un moment, tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est vraiment cette idée. OK, il y a le stack Martech, tu as rappelé Yann tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 10 000 outils, et c'est des process. C'est des équipes qu'on a essayé plus ou moins d'aligner. Alors, on est passé de l'inbound marketing à la BM. Aujourd'hui, c'est le sales enablement. Puis demain, ça sera encore autre chose. Mais on voit bien que c'est toujours cette idée de dire, OK, comment est-ce que j'aligne commerce et marketing? Comment j'aligne la notoriété, l'attractivité du produit, de l'offre, du service d'un côté? Comment je fais entrer des gens dans ce désir du produit? Et comment je convainc les commerciaux d'aller vendre? Les commerciaux qui font leur job par ailleurs de leur côté, et en fait le point de rencontre il n'est pas évident à trouver, et ce fameux MQL, pour moi c'est une sorte de consensus corporate pour dire j'ai fait le job, tu vas faire le job et lycée de Versailles,
et une croix dans la case.
C'est une croix dans la case, c'est exactement ça. Mais après, on ne va pas se mentir, les trois quarts des directeurs marketing, ils font ce qu'ils peuvent, donc ils vont faire du contenu pour la notoriété, ils vont faire leur job, et les commerciaux vont faire le job de leur côté. Et parfois, il y a des points de rencontre. Mais après, comme il faut du reporting, parce qu'on n'en a pas parlé, mais si on parle effectivement des ETI et des grands comptes, après, c'est le reporting. Donc, combien tu as fait de MQL ce mois-ci, tu es en deçà des objectifs. Donc, voilà, on est sur l'objectivation du boulot, finalement. Mais encore une fois, je pense que on est un peu à la marge et ça concerne, in fine, assez peu de gens.
OK, hyper intéressant. Frédéric ?
Alors, en fait, moi, tu m'aurais posé la question il y a à peu près, allez, 2 ans de ça, je t'aurais dit que ça serait normal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre boîte, hein, tu vois que le marketing génère énormément de leads et à l'époque, les commerciaux prospectaient assez peu. Or, la rémunération sur le variable et sur la génération de leads, elle est liée à deux choses. Un commercial invariable parce que ça c'est une profession où il peut sauter s'il ne fait pas ses objectifs, donc c'est normal qu'il soit payé sur le variable, qu'il soit payé un peu plus parce qu'il y a du risque. Et deux, parce que il a un travail de prospection, c'est lui qui génère le lead, c'est lui qui entretient la relation. Sauf que il y a 2 ans, comme je te disais, moi personnellement, je trouvais qu'il y avait un switch où beaucoup en fait de l'activité commerciale était lié à la génération de leads et les commerciaux prospectaient comme relativement peu. Nous, on le voyait bien dans les sources des leads, ils étaient salons, c'était machin, c'était bidule. Et finalement, moi, en plus, sur les salons, l'équipe marketing, on est au taquet, on est là pour recruter les gens et tout ça. Donc, en fait, tu dis, merde, est-ce que le marketing ne devrait pas être rémunéré parce que, quelque part, c'est une performance. Alors, ça a un petit peu changé depuis quelques temps parce que je trouve que de plus en plus, les commerciaux maintenant sont revenus sur en fait de la vente et de la prospection. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que depuis 3 ans, nous, on a vraiment une cellule de prospection et on a les IC grands comptes qui sont là pour closer les deals. Et c'est vrai que dans ces cas-là, tu peux reconnaître que le travail du commercial, comme il génère des leads, il fait du suivi, il fait du rappel, il fait de la relance, etc., etc., c'est son taf. Donc, c'est pas juste c'est plus aussi blanc si noir. Mais personnellement, moi, je serais pour que le marketing soit rémunéré à la performance quand il y a plus de leads qui sont générés, parce que c'est quand même une part importante du business, ça va. Mais pour cela, et c'est ce qu'on fait chez nous, on identifie quelle est la source des leads, quelles sont les sources des opportunités et quelles sont les sources des opportunités gagnées. Et c'est là que tu te rends compte, c'est est-ce que ton marketing fait le bon boulot? Est-ce que, comme dit Fabrice, les gens sont bien alignés? Parce que le problème, c'est que même nous, dans notre boîte, où on est une centaine, eh ben, on voit qu'il n'y a pas un très bon alignement marketing-sales. C'est-à-dire que les commerciaux disent, ouais, on fait de l'ABM, on cible tel compte. Nous, OK, on va faire des salons, des webinaires, des choses comme ça. Et en fait, qu'il n'y a pas cet alignement complet. Donc, pour moi, voilà, je pense que le variable, c'est important dans le marketing quand tu fais de la génération leads, pas quand tu fais juste du salon ou du social media, etc. Voilà.
Ok. Yann ?
Oui, je me souviens des réponses, mais je ne me souviens plus de la question.
La question, c'est est-ce que ça te paraît pertinent d'objectiver ton équipe marketing sur la génération de leads, sur le MQL, un quota mensuel, trimestriel, de dire, les gars, ce trimestre, essayez de me faire tant de leads. Est-ce que ça fait sens encore, ça ?
Toujours la même question, toujours la même réponse. Ça dépend. Ça dépend de ce que je vends. Si je suis dans un marché de masse en B2B, oui, parce que effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passera pas forcément uniquement avec des méthodes d'industrialisation ou d'automatisation web, mais aussi par de l'insight sales. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ces domaines-là dans les commentaires. Et après, plus je vais monter dans la hiérarchie, ben, moins je vais demander. La réponse serait oui aussi, mais différemment. Non pas dans la génération de leads, mais c'est un classique des méthodes ABM, c'est dans la constitution d'équipes qui sont à la fois marketing et vente. Donc, on mélange des gens qui sont dans le marketing, on les met dans les équipes de vente. Et on les met à la création de contenu et à la création de stratégies commerciales avec les commerciaux. Ça, j'ai déjà vu ça fonctionner sur le terrain. C'est remarquable quand ça marche bien. Et il n'y a pas de raison dans ces cas-là. Ouais, moi, je me suis même trouvé d'ailleurs dans cette situation-là où tu faisais le boulot, tu avais une contribution importante à des affaires qui pouvaient monter 150, 200 millions d'euros. Et tu touchais rien. Et je trouve que ce n'est pas très normal. Donc là, dans ce cas-là, à mon avis, si le marketeur est impliqué dans les équipes de vente, il doit toucher aussi un incentive sur les ventes.
Ok, hyper intéressant. Je vois que vous avez pointé le sujet du variable. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais, que j'avais en tête. Je vais préciser là où je voulais en venir avec cette question. C'est qu'aujourd'hui, le marketing est a principalement un objectif de génération de leads et on se retrouve à faire du volume pour du volume. Je vois qu'il y a un petit décalage avec ma caméra, désolé. Donc, le marketing se retrouve à faire du volume pour du volume. Pourquoi ? Parce qu'il est justement objectivé sur un quota de leads qui, pour moi, est une erreur. C'est une erreur de rester encore avec cette définition de MQL ou de lead, donc un prospect qui a téléchargé un contenu, un prospect qui a été présent à un événement, ou, voilà, selon le scoring et la complexité du scoring de la boîte, ce sera des choses comme ça. Et pour moi, une équipe marketing aujourd'hui doit être plutôt incentivée, objectivée sur le nombre d'opportunités qualifiées. Donc, avoir une dimension de qualité du lead. Au lieu d'avoir juste une dimension de quantité du lead, comme c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, le travers, c'est quoi ? C'est que le marketing a explosé ses quotas de lead, mais l'entreprise a loupé son objectif de revenu. Les commerciaux esquivent la plupart des leads marketing parce qu'ils sont juste pas bons. Et l'entreprise derrière n'a pas atteint ses résultats. Alors que l'équipe marketing, elle, finger in the nose, elle a atteint son quota de MQL. Donc pour moi, ça c'est un travers de volume pour volume et plutôt d'aller chercher un objectif de lead, on va aller chercher un objectif d'opportunité qualifiée. Donc là, on remet cette notion de qualité dans le prospect. On veut que ce prospect derrière soit une opportunité pour du business. Je pense que c'est la façon saine de revenir sur un marketing plus pragmatique. Et là, d'un coup, le marketing va pas faire juste du display ads ou de la lead gen sur les réseaux sociaux à faire remplir des formulaires pour cocher des cases. Là, d'un coup, le marketing commence à analyser son CRM, commence à analyser ses sources, à regarder quelles sont les sources de prospects qui convertissent le plus. Est-ce que c'est ceux qui viennent de mes partenaires? Est-ce que c'est ceux qui viennent de l'outbound? Est-ce que c'est ceux qui viennent de la lead gen de mon marketing inbound? Est-ce que c'est ceux qui viennent du site web, etc., etc. Et là, on est dans une analyse bien plus pragmatique de savoir qu'est-ce qu'on priorise, non pas les sources qui apportent le plus de leads, mais ceux qui apportent le plus de business. C'est ça que je voulais pointer. Maintenant qu'il y a un variable pour le marketeur ou pour le sales, ça, peu importe, ça dépend un petit peu la culture des entreprises. Moi, ça ne me paraît pas un must-have. Le sales n'a pas vocation à avoir forcément un variable. Le marketing, pareil. Mais en tout cas, pour les aligner les deux, il faut clairement qu'ils aient un objectif commun. Et un des objectifs, c'est justement comment les réaligner sur ça. C'est que le marketing ait un objectif commun avec le commercial, et c'est ce fameux nombre d'opportunités qualifiées. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que certains d'entre vous veulent rebondir sur ça?
Moi, j'avais rien dit sur le sujet. Là.
Ah, pardon, Patrice, on t'a oublié. Vas-y, Patrice, tu peux y aller.
C'est pas grave. Non, en fait, on se trompe. Enfin, pour moi, on se trompe de sujet, puis on s'est éloigné de notre sujet de départ. Parce que l'inbound marketing, ça a été dit à un moment, c'est quand même essayer de créer cette conversation et cette relation avec des gens que nous ne connaissons pas au départ et qui viendraient vers nous. Alors, si on se base sur cette définition-là, tu vois bien que l'idée de qualifier un lead par le marketing, déjà, ça paraît quand même un peu surréaliste. Tu vas le qualifier par rapport à quoi? Par rapport à des contenus, donc là, on a parlé de scoring tout à l'heure, par rapport à tes arguments, tes avantages produits, ta vision extrêmement pragmatique et rationnelle des choses. Or, ça a aussi été dit, ton client, de toute façon, est irrationnel. Donc, tu vas qualifier des choses qui sont qualifiables au sens logique et matériel des choses, mais tu vas pas du tout qualifier son envie, son désir. Or, c'est ce qu'on essaye de créer depuis le début. On s'est dit qu'on allait faire des contenus pour créer ce désir. On s'est dit que c'est ce désir qui allait nous permettre une relation de qualité, un échange, une conversation. Et puis, au moment où il s'agirait de qualifier, finalement, tu vas revenir sur des arguments marketing, sur savoir si tes avantages produits sont bien compris, s'il y a des objections, si c'est la bonne période pour l'appeler, etc. etc. Et moi, je te dis à ce moment-là que la qualification par le marketing,
plus ça dure,
elle aboutit forcément à un échec. Le commercial, une fois qu'il va arriver face à ton lead, il va se retrouver en difficulté parce qu'en fait, il n'y a eu aucune connexion réelle, humaine, émotionnelle, irrationnelle. Et donc, il a perdu cette vision du désir ou de l'envie. On devrait qualifier un petit peu plus sur quel est le niveau de désir ou d'envie que tu as généré.
Exactement.
Et le marketing devrait générer ce désir et cette conversation.
Totalement.
C'est le job du marketing, de toute façon. Faut pas oublier, pardon, je complète juste.
Ah oui, mais il n'est pas objectivé là-dessus, j'ai l'impression.
Non, mais on a toujours ce problème d'attribution, mais faut juste rappeler que tous les directeurs marketing disent « Ok, je fais du marketing du contenu, mais pour… » Alors, ils disent pour l'awareness, la notoriété, mais c'est bien in fine pour créer ce désir. C'est pas pour qualifier des leads. C'est pas leur.
Comment tu sais que tu as fait un bon boulot en tant que marketeur? C'est exactement ça. C'est de se dire comment je sais qu'en tant que marketeur, je suis en train de faire un bon marketing avec mon audience. C'est en se disant j'ai réussi à créer cette jauge d'intention et de la faire augmenter, ce fameux désir dont vous parlez. Si normalement ce travail est bien fait, je vais me retrouver, mes commerciaux vont se retrouver avec des meilleurs leads et ils vont se retrouver avec des leads qui présentent une opportunité qualifiée pour la société. Plus la qualité du lead est bonne, plus en amont, ça veut dire que le marketing a bien fait son job d'être en contact avec ce prospect, créer cette affinité, les éduquer, passer des messages clés, etc. Et donc, le commercial se retrouve en rendez-vous avec un lead qui n'est pas juste un touriste commercial, mais qui est un lead qui a bien compris ce que la société faisait et qui a bien compris qu'il rentrait dans les cases et qu'il avait un besoin que la société pouvait solutionner. Donc, c'est pour ça que le nombre d'opportunités qualifiées, je pense, est la bonne métrique. C'est parce que quand le marketing est bien fait, on voit que ce KPI-là va dans le bon sens. Donc je pense qu'on est tous alignés. Le marketing a vraiment ce rôle et ça a été un rôle grandissant. Avant, le commercial, il y a 25 piges, ce serait peut-être plus à vous, sans vous dire vieux, d'en parler, mais il y a 25-30 piges, le commercial avait sa part de responsabilité qui n'était pas du tout négligeable. Au contraire, c'était même le protagoniste principal protagoniste principal à faire augmenter cette jauge d'intention, ce désir. Aujourd'hui, pour moi, le commercial n'a plus du tout autant d'influence. C'est bien plus le marketing qui a ce rôle-là. Moi, dans ma vision un petit peu puriste du marketing, pour moi, le commercial n'a même plus du tout à prospecter. Il n'a même plus à arriver en amont de l'intention d'achat. Il arrive justement juste au moment où le prospect a levé la main pour parler avec, mais plus avant. Et c'est vraiment le rôle du marketing, de faire un marketing qui a en tête de créer ce désir, de monter cette jauge d'intention pour qu'en meeting, le commercial se retrouve avec des prospects solides. Parce que c'est ça, à la fin, qui compte pour le marketing, c'est amener des prospects solides à son commercial. Il y a bien trop de commerciaux qui se plaignent des leads qui sont envoyés par le marketing. Mmh. Et je pense que c'est parce qu'ils ont été alpagués par justement ces objectifs de quota, de volume, etc. Et que derrière, on en perd un peu le bon sens. Le premier facteur, et je terminerai sur ça, Yann, le premier facteur de la réussite d'un deal pour un commercial, c'est pas le fait qu'il utilise une méthode vente ou une méthode CAB ou je ne sais quelle méthode commerciale pour essayer de qualifier son prospect. Le premier facteur de réussite d'un prospect à une vente pour un commercial, c'est la qualité des leads. Si la qualité des leads n'est pas au rendez-vous, ça va mal se passer dans tous les cas. Donc, le marketing a vraiment un rôle crucial sur ça. Yann, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, désolé, je vais encore faire le breton têtu, mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas de réponse unique à l'ensemble de la panoplie B2B. Ce que tu dis, je suis complètement en phase dans le bas de marché. C'est sûr que d'ailleurs, ce qui se passe, qu'on observe dans le bas de marché B2B, c'est une hyper spécialisation des métiers de la vente et du marketing. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont dans l'inside sales, des gens qui sont chargés d'appeler des leads, des gens qui sont chargés de les convertir au travers de démonstrations, notamment, des gens qui sont chargés de closer les deals, des gens qui sont chargés de les suivre dans la durée. Enfin, tu vois une hyper spécialisation de la vente. Je vais pas dire que ça devient un peu les OS du 21e siècle, mais un peu quand même. Hein. Ça devient très, 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 très spécialisé, très professionnalisé et très processé. C'est-à-dire, on peut remplacer le vendeur par un autre. Ça n'a pas grande importance. Ils suivent le même parcours. Et puis, quand tu vas arriver dans le haut de marché, bah, c'est complètement l'inverse. On va demander aux vendeurs d'être de plus en plus au fait des aspects stratégiques et marketing, et vice versa, on va demander aux marketeurs d'être plus en plus au fait des aspects commerciaux aussi, hein, donc c'est la généralisation des équipes mixtes avec un travail qui est très important en amont de la vente. C'est-à-dire que le lead, la notion même de lead d'ailleurs n'a strictement aucun intérêt, parce que la plupart du temps ce sont les équipes de vente et de marketing qui vont susciter le lead. C'est-à-dire, il n'y a pas un type qui a besoin et puis qui attend qu'on réponde à son besoin. C'est l'équipe marketing et vente, c'est pour ça qu'ils ont besoin de travailler ensemble, qui va aller provoquer les prospects ou le réseau du prospect, parce qu'en ABM, on travaille beaucoup par réseau à la fois interne et étendu autour du client, et qui va susciter des problématiques, remuer le couteau dans la plaie, on va dire, hein, pour vraiment faire sortir des problématiques qui vont ensuite générer un besoin. Alors, bien sûr, il y a les réponses aux appels d'offres. Ça, c'est plus standard. Mais le vrai sujet, il est à se situer en amont, à apporter le plus de valeur possible. Et là, le marketeur a un rôle important à jouer. Donc, et bien entendu, entre ces deux extrêmes, eh bien, tu as tout un tas de bidules qui sont un peu entre les deux, tu vois. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Désolé.
Exact, c'est bien de le rappeler, Yann, merci. Effectivement, toujours prendre avec des pincettes et adapter le discours à son cas personnel. Mettre le marketing sur le terrain et former les commerciaux au marketing, ce ne serait pas une oui. solution. Les faire monter
c'est
leur.
C'est ce que j'ai. Elle a dit, Mireille, j'ai répondu.
Ok. On était sur la même. Moi, je suis plutôt d'accord. Les meilleurs commerciaux pour moi sont ceux qui se sont mis à la sauce marketing. Je suis un petit peu biaisé parce que c'était un peu mon cas. Je partais un peu plus d'une fourchette, d'un scope un peu plus sales et j'ai doucement mais sûrement décalé vers le marketing. Pour moi, aujourd'hui, les commerciaux qui maîtrisent le marketing et qui adoptent une approche marketing sont les commerciaux qui surperforment. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir sur ça?
C'est sur l'aspect stratégique dans la question. C'est un peu, tout à l'heure, je parlais de sales enablement, un terme un peu barbare, c'est le nouveau truc, mais c'est exactement le projet. C'est comment est-ce qu'on aligne, même au-delà du marketing et des sales, comment est-ce qu'on aligne l'entreprise dans le process d'acquisition et de vente. Et c'est ça qui est en train de se profiler, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens sont... Enfin, l'audience est de plus en plus familière avec les approches, quelles qu'elles soient, spécialisées, hyper spécialisées. Donc, et la concurrence est de plus en plus forte aussi. C'est un aspect important. Enfin, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous avez un panel de concurrents qui s'étend. Si on prend juste le Martech, hein, je parlais de 10 000 solutions, comment tu vas choisir? Donc, de plus en plus, il va falloir que l'entreprise entière soit alignée sur le process de vente. C'est un peu le projet du sales enablement. Alors après, avec toutes les réserves d'usage, mais donc je pense qu'aujourd'hui il va falloir cranter de plus en plus, c'est-à-dire les solutions sont de plus en plus performantes. C'est les vendeurs, les commerciaux de plus en plus spécialisés, les marketeurs de plus en plus pointus. Mais au final, pour te démarquer, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu la question, souvent, quand je parle avec des commerciaux ou même des marketeurs, ils sont un peu embêtés, parce qu'ils se sont dit, putain, on a 15 solutions à peu près équivalentes, parce qu'il y a aussi une trivialisation des solutions et des services, tu vois. Tu prends du marketing automation, enfin, c'est un peu Marquise, vos beaux yeux d'amour me font mourir, tu vois. Comment tu choisis? Donc, au final, et pour revenir un peu, peut-être boucler sur le début du sujet, c'est là où le contenu qui soit informationnel, divertissant, etc., va retrouver un peu son rôle, mais au niveau de l'entreprise, avec un cap stratégique bien défini, et sur lequel tout le monde est aligné. Parce que l'enjeu aujourd'hui, je pense, c'est comment tu te démarques de tes concurrents. Donc, on
Exactement.
Revient un peu, on peut, sur cette création alors de désir, mais avec un enjeu de visibilité, un enjeu d'attention. On parle beaucoup d'économie de l'attention, mais aujourd'hui, ça devient le sujet pour émerger. Et d'un point de vue purement concurrentiel, bah, effectivement, comment est-ce que tu prends le lead sur la concurrence? Donc,
yes.
Ça va devenir de plus en plus tendu, je pense,
Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Fabrice. Juste avant de rebondir sur... où je vais rebondir sur ton point et après, je terminerai pour la question de Mireille. Tu as complètement raison. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui n'a pas 15 compétiteurs. On a une vraie commoditisation, une trivialisation des solutions. Aujourd'hui, l'avantage produit n'est qu'éphémère. Demain, vous sortez une nouvelle fonctionnalité, vos concurrents, le mois d'après, ont exactement fait la même chose. Donc aujourd'hui, l'avantage produit n'est plus là. Il y a une forte concurrence. Il y a une vraie concurrence sur avoir l'attention des prospects. Aujourd'hui, ils sont sursollicités. Donc pour moi, l'avantage, il vient vraiment du branding, il vient vraiment de cette capacité à être visible, top of mind, en amont de l'intention d'achat et à créer de l'affinité avec cette audience. Comment je fais dans mon approche marketing pour vraiment aider mes prospects et pour rester dans leur tête jusqu'au moment où, quand ils auront un besoin précis sur mon sujet d'expertise, boum, le premier réflexe, ce sera de penser à mon entreprise. Et pour moi, le marketing aujourd'hui, ça n'est pas de l'inbound, c'est plutôt d'avoir une approche média, une approche qu'on appelle ça, nous, dans le jargon, d'Imagine. C'est une approche média où, en fait, on va faire du podcast, on va faire des émissions, on va faire des outils, on va faire des choses où, en fait, on va aider, mais pour de vrai, entre guillemets, le prospect. On va faire des outils, on va lui passer des checklists, on va lui passer des carousels où vraiment, en fait, c'est limite du consulting gratuit, mais c'est fait dans une vocation où c'est fait on purpose, c'est fait de façon volontaire parce qu'on veut créer cette affinité, on veut montrer notre expertise, on veut montrer qu'on est les meilleurs sur le sujet concerné pour qu'au moment où il y a cette intention d'achat qui émerge, on pense à nous, un peu cette notion de réciprocité où on a tellement donné que finalement, ça n'est que naturel de revenir vers nous quand il y aura un sujet. Donc pour moi, ça, c'est l'approche média qui aujourd'hui fait la différence. Et pour revenir sur la question de Mireille, ça peut paraître un peu ésotérique de dire former des commerciaux au marketing, mais ça veut dire quoi concrètement? Bah, juste un exemple pour l'audience, pour que ce soit peut-être un peu plus concret, c'est par exemple justement avoir un podcast, proposer le fait d'avoir un podcast ou une émission, et au lieu que les sales approchent les prospects avec un pitch très classique de nous aidons les entreprises à faire X, Y, Z et regardez, on a 3-4 logos trop cool qui montrent qu'on est trop fort sur ça. Est-ce qu'on peut discuter 20 minutes ensemble sur ce sujet-là? Au lieu d'avoir ce pitch très classique, très vente, on va plutôt permettre au commercial d'aborder le prospect plutôt d'une façon, on a un podcast sur un sujet X, on estime que vous faites partie des 10 meilleures entreprises expertes sur ce sujet-là ou pertinentes pour ce sujet-là. Est-ce que vous seriez intéressé pour venir dans ce podcast, échanger avec nous et amener ce prospect et créer ce premier point de contact, cette affinité dans une atmosphère non commerciale où il y a un vrai échange et vous faites une pierre 3-4 coups. C'est-à-dire que ce commercial qui demande à ce prospect de venir dans un podcast ou dans une émission, il permet à l'audience d'avoir de l'expertise parce que ce prospect va raconter ses problématiques, va raconter ce qu'il fait, etc. Vous êtes en train d'améliorer la notoriété de l'entreprise, la visibilité parce que ce podcast, cette émission sera diffusée dans X canaux et vous êtes en plus en train d'apprendre à connaître les problématiques, de mieux connaître les problématiques de votre prospect et de créer cette affinité. Et il sera bien plus à l'aise à échanger et à donner de son temps, etc. dans cette atmosphère non commercial, donc avec une approche marketing, plutôt que ce fameux rendez-vous de démo où il a l'impression que chaque minute compte et qu'à tout moment, vous allez essayer de le poignarder avec un devis. Donc ça, c'est comme ça que pour moi, un commercial fait la différence quand il utilise une approche média dans son activité et quand il publie, bien évidemment, sur LinkedIn, etc. etc. Donc voilà comment un commercial peut avoir une approche plus marketing, dirons-nous, un ADN plus marketing dans son activité.
Il y a une question de Cédric.
Ouais.
Voilà.
Alors, je veux bien que vous précisiez votre point de vue.
La question de savoir comment on définit content marketing et inbound marketing est une question qui a l'air simple et qui n'est pas simple du tout. Il y a eu d'ailleurs des débats infinis entre Pulizzi et tous ses confrères qui sont crêpés le chignon sur ce sujet-là. Et ce n'est pas du tout innocent, en fait. La notion d'inbound marketing, si je veux schématiser, bien sûr, il y a un recoupement entre le content marketing et l'inbound marketing. Il n'y a pas d'inbound marketing sans content marketing. Mais l'inbound marketing introduit toujours une part d'automatisation. Donc, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien l'automatisation. Je reviens sur ce que j'ai expliqué plusieurs fois. c'est que en fonction de ce que je vends et de la façon dont ça fonctionne, j'ai un funnel ou j'ai pas de funnel. Si j'ai un funnel et j'ai un processus de vente qui est plutôt automatisable, alors à ce moment-là, l'inbound marketing va avoir un sens. Je vais avoir la possibilité de faire des parcours de vente qui seront particuliers, qui seront relativement faciles à identifier. Plus on va être dans le domaine du discret, de la niche, moins on va avoir besoin d'automatiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas automatiser. On peut automatiser pour faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire de la mise sous couveuse, mais c'est simplement on ne le fait pas dans le même esprit. On n'est pas là en train d'essayer de closer un deal parce qu'il n'y a rien à closer, en fait. On est simplement en train de, se situer très en amont de la vente, à identifier des problématiques, à faire ce qu'a expliqué très bien Fatih, faire du conseil, parce que finalement, oui, le content marketing, c'est une forme de conseil. On va, c'est ce que je disais tout à l'heure, remuer le couteau dans la plaie, on va faire surgir des problématiques, surtout quand ce sont des problématiques qui n'existent pas ou quand on va évangéliser, c'est le terme qu'on utilise, sur des sujets qui sont naissants ou qui sont relativement peu compris.
C'est pas n'existe pas, c'est qu'ils ne sont pas au courant d'eux. Parce que s'il fallait qu'on fasse émerger des problématiques qui n'existent pas, ce serait problématique.
Qui n'existent pas dans l'esprit des gens, c'est-à-dire dont ils ne sont pas conscients, c'est ça que je veux dire.
Exactement, je précise au cas où si on a des mauvaises langues qui souhaiteraient rebondir sur ça. Cédric, c'est une bonne question. Pour moi, le content marketing, c'est la grande famille. C'est la grande famille de toutes les stratégies de contenu. Et l'inbound est un des enfants de la famille. L'inbound est un des enfants. La demand gen est un autre enfant. Et il y a d'autres stratégies de contenu comme ça. Donc, ça, c'est pour la réponse content marketing vs inbound. Et quand apporter de la valeur vs faire entrer dans un process, pour moi, justement, il faut essayer de... on essaye d'avoir en tête ce process, mais l'idée, c'est de ne pas perdre le fil à se dire... je pense qu'un marketeur est meilleur à se dire je vais essayer dans toutes mes actions d'apporter de la valeur que plutôt un marketeur qui dit j'ai un process et je le suis pour cocher des cases. Je pense qu'il y a un juste milieu, bien évidemment, mais je pense qu'il faut juste se dire marketing égale faire monter la jauge d'intention, créer la confiance, et donc ça passe par tout bonnement faire du bon contenu et le mettre devant les yeux de son prospect. Ok, trop cool. Ça nous fait 1h45 ensemble déjà, et c'était plutôt intense. Je pense que, à moins qu'on ait d'autres questions des prospects, je pense qu'on va s'arrêter là, juste pour que notre audience puisse savoir comment vous contacter si besoin, etc. Déjà, juste avant ça, merci pour votre attention, pour votre présence. 1h45 ensemble, c'est pas rien, et merci pour votre attention, merci pour vos questions, pour cet échange. Ça a été super agréable, il y a eu des questions super pertinentes, il y a des questions qu'on a laissées un petit peu de côté, l'IA, etc. C'est potentiellement des sujets qu'on va traiter pour d'autres tables rondes, d'autres événements, donc merci pour ça. Frédéric, si des personnes veulent te joindre, c'est quoi le plus simple?
Bah, allez sur mon blog conseilmarketing.com et puis voilà, vous verrez un petit peu de quoi je parle, tout simplement.
Trop cool. Fabrice, comment les gens peuvent te contacter ou te voir?
Bah écoute, Twitter, LinkedIn, le site Faber Content, mon site, c'est ma forte, Telegram, c'est
t'es
facile par... aujourd'hui.
T'es partout.
Portable. Je suis partout.
Ouais, c'est ça, call calling. Je peux laisser mon 06, il n'y a pas de souci.
Trop cool. Patrice, comment on te contacte si besoin?
Oui, c'est ce que j'allais dire, je vais laisser mon 06. Non, mais sinon, sinon sur LinkedIn, sur Twitter, sur le blog marketingémotionnel.com. Et voilà, et puis...
Exactement, c'est Patrice Lobigna.
Si tu veux essayer par mail, tu peux. Hein, tu fais patrice@eforbrands.com et voilà. Mais peut-être que tu seras dans les spams, je ne sais pas. Enfin, on verra.
Yes. Donc, Patrice Lobigna, Frédéric Canvet, je précise juste les noms parce qu'on ne les voit pas à l'écran. Si jamais vous voulez joindre ces messieurs. Et Yann Gouvernec. Oui. Gourvenec, pardon. Comment on te contacte c'est quoi le moyen le plus simple pour toi?
Just Google my name. Non, le plus simple, c'est de faire dans LinkedIn. Oui, dans LinkedIn.
LinkedIn,
parce que je déteste le mail.
Ok, super.
Sinon, vous pouvez venir ici boire un café, hein, si vous êtes les bienvenus.
Trop cool.
C'est-à-dire que t'es le gars qui conseille aux gens d'envoyer des emails, mais tu détestes les mails, quoi.
En fait, j'utilise depuis tellement longtemps, je supporte pas cet outil, en fait. Enfin, non, je l'utilise beaucoup, mais une fois qu'on a discuté avec quelqu'un, on fait un compte rendu, oui. Mais envoyer un mail à froid comme ça, non, je fais pas.
Ça marche, ça marche, ça marche. Merci, merci à vous tous. Merci Cédric. Merci à toi, merci à vous. Merci Laurent. Merci. J'essaie de pinguer un peu quelques noms dans les commentaires. Qui on a? On a eu Laurent, on a eu Cédric, on a eu Victor, Mireille. Merci à vous tous. Merci pour votre interaction avec nous. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci d'avoir accepté cette invitation et cet échange. Le sujet n'était pas simple. On avait un petit peu... le temps était limité. Bien évidemment, tout est dans le détail. Le diable est dans les détails. Ça dépend beaucoup de l'industrie, du secteur, du panier moyen, etc. Mais on a essayé de vous donner quelques tips actionnables. Donc, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de semaine.